Quelle joie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode du podcast de Moodstep. Aujourd'hui, j'ai une petite excitation particulière parce que nous faisons un voyage transatlantique. Nous allons à la rencontre de Manon, qui est québécoise, et nous allons parler de créativité. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur. Mais qu'est-ce qu'une turbine à bonheur, me demande-t-on ? Une turbine à bonheur, c'est un jeu de connaissance de soi en coopération avec les autres. J'interviens en entreprise sur des groupes en général de plus de 100 personnes sur environ 2 heures, souvent en séminaire. Mais pour l'instant, nous n'allons pas faire une turbine à bonheur, nous rejoignons de ce pas Manon pour parler de créativité. Bonjour Manon.
Bonjour, merci pour cette belle invitation.
Alors, je suis heureuse et excitée, je dirais même, de faire ma première interview transatlantique. Tu es sur un autre continent, tu es au Québec. Tu es où exactement?
Je suis à Mont-Saint-Hilaire, qui est à peu près 45 minutes de Montréal.
Ah là là!
Donc, à la campagne.
Donc, une Québécoise, j'avais interviewé Christine Michaud, je ne sais pas si tu connais.
Oui, oui.
En vidéo, il y a quelques années, mais ça y est, avec le podcast, le monde s'ouvre à nous. Et j'avais très envie d'aller explorer votre vision à vous, les Québécois. Bien sûr, vous avez des visions individuelles, mais d'aller à la rencontre des Québécois. Parce que, comme on se le disait et je te disais juste avant de commencer, c'est vrai que vous avez vraiment une autre culture et notamment vous êtes extrêmement ouverte sur toutes les disciplines de connaissance de soi et de développement personnel. Donc je trouve intéressant d'écouter comment les Québécois regardent l'être humain et les relations. Donc merci beaucoup d'avoir répondu présent. Ça fait quelques années qu'on était rentrés en contact via Facebook, et c'était l'occasion rêvée. Mmh. Avant de commencer, parce qu'avec toi, tu es la créatrice de M comme Muse, et on va parler de créativité, et peut-être aussi de retour à soi, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter ?
Avec plaisir. Dans mon ancienne vie, j'ai travaillé dans des grandes entreprises en communication, en relations publiques. Je suis maman de 3 enfants qui m'ont ramenée à moi, littéralement. Et là où je me suis redécouvert le fil créateur, celui qui ramène au centre de notre vie, non pas dans la performance, mais vraiment par le processus. Et c'est là où je me suis littéralement mise au monde en offrant un premier atelier de créativité où, honnêtement, j'avais aucune idée comment ça s'appelait, mais c'est ce que j'avais envie de faire dans la vie. Et ensuite, je suis allée suivre des formations en coaching de créativité et en coaching de psychologie positive et finalement en pleine conscience aussi dans la lignée de Jon Kabat-Zinn.
Du coup, tu es la créatrice de M comme Muse. Qu'est-ce que tu fais avec M comme Muse? C'est à qui tu t'adresses? À quoi ça consiste?
Oui, M comme Muse, c'est le bien-être par la créativité. Donc, c'est vraiment le point d'intersection entre la pleine conscience, le mindfulness, qui nous ramène dans le moment présent, la psychologie positive, qui est la science du bien-être, où on cultive notre bonheur, notre bien-être, et l'outil par lequel on intègre tout ça, c'est la créativité. Parce que travailler avec ses mains, ça donne un sens à notre vie, ça permet également à notre conscience, à notre cerveau, d'intégrer ce qu'on apprend, parce que c'est facile de rester au niveau de « ah oui, je le sais, je le sais, je sais, je sais », mais c'est important de pouvoir comprendre, puis d'intégrer et de passer à l'action. Donc, moi, je travaille principalement au niveau privé avec... au début, c'était plus des femmes. Il y a de plus en plus d'hommes qui s'ouvrent à ça. Et aussi en entreprise, où on va travailler au niveau des liens entre collègues de travail, mais aussi sur l'importance d'apporter, d'intégrer le calme pour pouvoir être plus créatif, plus productif aussi. Mais à partir d'un état de bien-être puis de sérénité, en fait. Donc, c'est l'essentiel de mon travail.
Comment tu amènes à ce calme et à cette sérénité? Qu'est-ce que tu utilises comme méthode quand tu arrives dans un groupe? Imaginons, alors c'est vrai que c'est un peu différent l'entreprise et les particuliers, parce que oui. Je pense que le particulier est dans une démarche active, Alors qu'en entreprise, on peut se retrouver dans un groupe de travail sans l'avoir vraiment décidé. C'est parfois décidé par un manager.
Oui.
Comment tu présentes les choses? Comment tu amènes les gens à accéder à cet espace de calme et de sérénité?
Si on parle au niveau entreprise, ce qui est important, c'est de pouvoir commencer par respirer. C'est aussi simple que ça. Une bonne respiration consciente de 16 secondes, là, simplement, nous ramène dans notre corps parce qu'on est trop dans notre tête. Puis, automatiquement, il y a un calme qui s'installe. Puis, à partir du moment où on est capable de créer ça en milieu de travail, on est plus ouvert, plus disponible à ce qui est, au lieu d'être dans notre esprit qui est à la recherche de solutions. C'est comme un petit cheval qui est dans un manège qui tourne en rond. Mais là, on va couper la corde et lui laisser la liberté d'aller ailleurs. Donc, première étape, c'est vraiment créer le calme par une courte méditation. Puis souvent, il y en a qui vont me dire c'est difficile là, de méditer même 1 minute, mais de pouvoir le faire, j'hésite jamais à faire asseoir les gens par terre, de se reconnecter à ça, de revenir à ce qu'on était un peu enfant, en fait, là, au lieu d'être toujours assis, bon élève, sur une chaise avec un bureau devant, être prêt à produire quelque chose, à apprendre, bien, de s'installer par terre, peut-être même d'enlever ses souliers, puis de respirer, mettre sa main sur son centre, son plexus solaire, ça apaise le système nerveux, puis ça nous permet de revenir. Donc, imaginez que tu sais, un employeur qui offre ça en cadeau à ses employés, pour moi, c'est une belle marque je veux dire, d'amour, de confiance aussi, puis de souci de prendre soin des gens. De là, on s'amuse à travailler en mode intuitif pour laisser parler une autre place, une autre part de nous qui est toujours présente mais qui s'exprime différemment. Ça, c'est la part intuitive, la part créative de notre cerveau qui s'exprime autrement que par les réflexions, les listes, les choses qui sont structurées. Ça va s'exprimer par le choix d'images, de symboles, de couleurs, même les émotions, de pouvoir le faire. Par exemple, on va pouvoir le faire en collage ou en peinture intuitive, puis après ça, de pouvoir en parler en groupe, puis d'amener ça plus loin. Donc, on peut utiliser du brainstorming de cette façon-là par le collage, puis après ça, de pouvoir en faire une réflexion, de pouvoir sortir différentes idées sans se censurer, puis de pouvoir amener cet espace-là où tout est permis, tout est possible. De dire, par exemple, si vous êtes un magazine, puis qu'habituellement, ben, vous ne mettez pas de photos de personnages, de personnes, de personnalités sur vos pages couverture, mais ici, oui, vous pouvez le faire pour, après ça, en sortir des réflexions qui sont différentes, qui vous amènent plus loin que ce que vous êtes habitué de penser, de faire. Donc, c'est important de pouvoir s'offrir ce vent de liberté-là.
J'ai l'impression que tu associes donc la créativité à l'intuitivité ou au fait d'être intuitif. Pour toi, ça va de pair, la créativité n'existe pas sans l'intuition?
Pas n'existe pas, mais est enrichi par l'intuition. Parce que pour moi, la part cartésienne, la part rationnelle, a ses limites. Je la vois plus comme un ordinateur qui va prendre les commandes, qui va prendre les programmes que nous, on va mettre dedans. Ben, c'est un bon exemple si on se lève du mauvais pied, puis qu'on n'en prend pas conscience, qu'on fait juste être de mauvaise humeur, ben, c'est ce qui teinte notre journée au complet. C'est le programme que le cerveau a pris pour la journée. Tandis que si de façon consciente, ça c'est jusqu'à ce qu'un événement positif arrive, bien entendu, mais là on est à la merci de ce qui se passe dans notre vie, versus prendre consciemment cet état-là, dire OK, je suis de mauvaise humeur, bien maintenant comment je peux introduire plus de calme dans ma vie ou comment je peux m'ouvrir à plus de joie sans chercher de réponse. Donc quand on travaille en mode intuitif, on ne cherche pas les réponses, on les laisse émerger, on leur laisse la place pour être. Et à partir de là, quand on se met à travailler de cette façon-là, puis on laisse les réponses émerger, bien entendu, la part rationnelle va nous être d'un grand soutien pour orchestrer la suite, pour pouvoir planifier, structurer, puis créer de cette façon-là aussi. Mais pour moi, ça prend racine dans cette part de liberté-là qui est associée au calme et qui laisse la place à l'intuition.
Comment je peux trouver ce qui va amener de la paix et du calme dans ma vie. Et en fait, ce que tu dis, si je comprends bien, c'est de se poser et de voir ce qui émerge. Mais donc, il n'y a pas de choses concrètes, c'est-à-dire, alors, si vous faites ça chaque jour, vous serez plus calme. Si moi, je suis en toute autonomie, là, voilà, comment je fais demain pour accéder à ça?
Pour moi, il y a des outils de base. Bien entendu, on a chacun... Tu sais, la créativité, ça s'exprime de différentes façons, puis c'est important de suivre ce qui nous fait du bien. Pour quelqu'un, ça va être de cuisiner, quelqu'un d'autre, ça va être de jardiner, ou même réparer des choses au lieu d'en acheter des nouvelles. Travailler avec ses mains, ça nous permet de sortir de la tête. Mais pour une pratique de base, pour moi, il faut que ça soit simple, ou sinon, ben on fait juste en rajouter de plus en plus, puis je pense que si vous êtes comme moi, on a des quotidiens qui sont très chargés, donc il ne faut surtout pas s'en rajouter sur les épaules, de garder ça le plus simple possible. Donc, créer le calme, pour moi, ça passe par, je l'ai dit tantôt, la respiration consciente. Quand c'est trop difficile de méditer, déjà le premier pas, c'est de se remettre à respirer. Parce que souvent, on oublie de respirer. Hein? On respire là, dans un espace minimal. Par la suite, de pouvoir oser méditer. Ne serait-ce que 5 minutes au début de la journée, ça opère un grand changement dans notre façon d'aborder les choses. Bouger, marcher. Il y a de plus en plus de réunions qui se font en marchant. Et là, ça stimule, le calme, mais la créativité aussi énormément. Et l'introspection. Être capable d'observer à l'intérieur ce qui se passe, puis de pas juste le nommer mentalement, mais de tenir un journal personnel, écrire, c'est super important. Ça nous permet de sortir du mental pour déposer ça par écrit. Puis bien souvent, ce qui arrive, c'est que quand on se met à écrire, ça va bien au-delà de ce qu'on est habitué de se dire mentalement. Ça va bien au-delà de tout ce qu'on se répète dans notre tête. Et ça apporte un regard qui est différent sur notre vie. Donc, si tu veux des outils concrets, là, pour moi, c'est vraiment ça. Méditer et tenir un journal de bord. Écrire.
Ce qui est étonnant, quand tu décris, donc tu dis pour accéder au calme, tu parles de marché, tu parles de créativité, que moi, créativité, j'associe à quelque chose qui bouillonne. En fait, pour accéder au calme, tu parles aussi d'activités qui bougent, qui mettent en mouvement. Je trouve ça étonnant.
Parce que quand on est... On reste dans l'espace mental, il y a du stress qui peut monter. Je veux dire, on est tout le temps dans les mêmes idées. Pour moi, bouger et méditer, ça ouvre une fenêtre, ça laisse de la place pour l'oxygène, pour rentrer. Et même les moines bouddhistes vont dire, tu sais, si t'es trop dans ta tête, c'est le temps d'aller couper du bois. Aller couper du bois, c'est travailler physiquement, là, c'est bouger pour après ça. Il y a tellement de gens qui vont expérimenter ça, de pouvoir aller prendre une bonne marche, une bonne grande marche et revenir avec un esprit renouvelé, rafraîchi. C'est tellement important versus rester assis à son bureau à essayer de trouver de nouvelles idées. Quand ça, ça fonctionne plus, c'est important de se lever, de bouger, de danser même pour pouvoir après ça... laisser de l'espace pour le calme. C'est la même chose comme sauter dans un lac où, à partir du moment où on saute dans le lac, donc on se met en mouvement, le fond du lac se remet à bouger, on voit plus clair, puis on reste calme et le tour devient clair. Donc, c'est important de pouvoir sauter dans le lac, faire bouger tous les éléments pour après ça, laisser ça décanter et voir mieux après.
Et selon toi, tout le monde est créatif? Tout le monde a accès à cette créativité?
Définitivement, de façon différente d'une personne à l'autre. Puis, ce qui pour moi est primordial, c'est de suivre ce qui nous fait vibrer. Je ne crois pas à des solutions pour tous. Tu sais, quelqu'un va dire, ben, moi, pour moi, dessiner, ça ne me parle pas. Pour moi, ça va être de danser qui va me permettre d'exprimer ma créativité. Ben, fais-le, fais-le, fais-le. Puis pour d'autres, ça va être de travailler le bois, par exemple. Donc, ou d'écrire, d'écrire de la poésie, peu importe, de tenir son journal personnel. Donc, c'est important de suivre ce qui nous fait vibrer pour pouvoir laisser cette créativité-là s'exprimer. Mais oui, on l'a tous. Ça, c'est clair.
Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression d'avoir rencontré, j'ai rencontré des personnes qui n'ont pas de passion, n'arrivent même pas à se reconnaître des talents, et on dirait qu'ils sont complètement déconnectés, même ils ont perdu la capacité de reconnaître ce qui leur fait vibrer. Est-ce que tu as déjà été confronté à ça, et quel serait ton conseil alors pour sortir de là?
C'est les clients avec qui j'adore le plus travailler. C'est... Parce que c'est là où les transformations sont encore plus fulgurantes, marquantes. À partir du moment où comment je pourrais dire? Quand on se remet en mouvement, ou même, non, même avant ça, quand on repart de l'intention, parce que bien entendu, ces personnes-là, s'ils n'ont pas le désir de reconnecter avec une forme de créativité ou de reconnecter avec une forme de, comment je pourrais dire, de feu intérieur, tu sais, puis sont bien, ben parfait. Je veux dire, tout est parfait. Mais à partir du moment où quelqu'un vient me voir et me dit, moi, je ne suis pas créatif, je ne sais plus ce que j'aime, mais il y a une petite part en moi qui a envie d'y croire. Ce que tu me dis, là, ça fait écho à l'intérieur de moi. Comment je peux me retrouver? Comment je peux retrouver le fil de ma vie? Là, ça fonctionne. Puis, pour moi, peu importe qu'on pense qu'on soit créatif ou pas, peu importe qu'on aime la peinture, le dessin, le collage ou pas, avec moi, quand les gens viennent travailler avec moi, on passe par ça. Puis, à travers ça, au-delà du résultat, ils ne sont pas obligés d'aimer le produit fini ou peu importe, mais à partir de là, ça éveille souvent des souvenirs. Elle dit, ah, et tu me fais penser que j'ai oublié que j'aimais la photographie. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ou ah, tu me fais penser que j'ai toujours aimé parler avec les gens, donc je vais partir un podcast. Tu comprends? Mais c'est à partir du moment où on replonge puis on se met en action avec les mains. Puis ça permet de laisser de la place dans le mental pour revenir à son essence profonde. Puis à partir de là, ben tu te replonges dans ce qui te fait vibrer, qui se met à remonter à la surface doucement. Mais il faut être patient, il faut être en ouverture, bien entendu. Tu sais, ce n'est pas nécessairement des transformations qui se font du jour au lendemain, mais il faut rester aligné sur cette intention-là de dire, ben moi, j'ai envie de vivre une vie inspirée, inspirante, puis de me retrouver à l'intérieur de ça, ben de continuer, puis de maintenir... De maintenir ça, puis d'oser se mettre en pratique avec des projets créatifs comme ça qui vont venir nous bousculer un peu dans ce qu'on... nous sortir de notre zone de confort. Puis c'est ce qu'on appelle le flow, FLOW. C'est à partir du moment où on pratique une activité créatrice quelconque, là, puis même j'inclus là-dedans coudre, réparer une chaise et tout, qui est assez compliqué pour que ça requiert notre pleine attention, mais pas trop compliqué pour qu'on devienne trop stressé ou que la marche soit trop haute aussi. Donc, à partir de ce moment-là, le flow nous apporte beaucoup de bien-être. Et moi, je pense que c'est à partir de ce bien-être-là qu'on renaît, qu'on se reconnecte à ce qui nous fait vibrer dans la vie, tranquillement. Donc, plus on pratique ces activités-là qui apportent le flow dans notre vie, plus on se retrouve.
Ouais, d'ailleurs, donc il faut un moment sortir de sa croyance que rien ne nous plaît et essayer, quitte à ce que ce soit désagréable, quitte à ce qu'on n'aime pas, mais qu'est-ce qu'on risque en fin de compte à essayer des nouvelles choses pour trouver ce qui nous fait vibrer. C'est ce que je retiens de un peu ce que tu dis aussi. On va finir avec ça parce qu'on arrive au bout du temps, mais j'aimerais, tu l'as évoqué dans ta présentation, est-ce que tu pourrais nous raconter comment toi... Parce que tu fais pas ça, voilà, tu fais pas ça, t'as pas choisi au hasard de travailler spécifiquement sur la créativité. Quelle a été, est-ce que ça a été une révélation? Comment ça s'est passé dans ta vie à toi, concrètement, peut-être comme une histoire? Comment t'as découvert ça? Je sais que c'est venu avec tes enfants, mais si tu pouvais nous
Oui.
raconter un peu plus l'histoire.
Rapidement, depuis toujours, j'avais l'impression de porter une passion à l'intérieur de moi qui n'avait pas de nom, depuis l'adolescence. Et j'ai jamais lâché prise là-dessus en me disant, faut que je trouve ma mission de vie. En travaillant en communication, en relations publiques, je remarquais que ce qui me faisait vibrer, c'était quand j'étais en relation avec les graphistes, avec la part créative du travail, mais en même temps avec la part de communication interne où on prend soin des gens. Donc, il y avait cet univers-là, mais qui était comme intangible encore à ce moment-là. Quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai lâché mon poste en communication pour rester à la maison et travailler à mon compte en communication, en graphisme. On a eu un deuxième enfant, j'ai été rédactrice en chef pour un webzine sur la maternité et rendue à ma troisième grossesse, j'ai ressenti vraiment un appel pour lâcher prise. Mais tu sais, souvent, lâcher prise, on a les jointures blanches, puis on se dit, ah, je veux lâcher prise. Ça passe pas comme ça. Mais par cette grossesse-là, j'ai littéralement lâché prise. J'ai laissé encore mon poste pour pouvoir vivre une vraie grossesse, comment je pourrais dire, plus calme, plus centré, puis être vraiment pleinement avec ces enfants-là qui étaient formidables, qui sont encore formidables. Puis de là est né le besoin de reprendre en main mon appareil photo, puis de honorer mon quotidien, observer cette vie-là, parce que j'ai oublié de le dire, j'étais tout le temps dans l'optique de je serai heureuse lorsque j'aurai trouvé ma mission de vie. Je serai heureuse où je pourrai ralentir, où je pourrai relaxer quand j'aurai enfin trouvé ce qu'il faut que je fasse comme travail, où je serai pleinement heureuse. J'étais tout le temps en quête de, et pas dans le moment présent, mais ce retour vers moi-là avec ma caméra, avec l'ouverture aussi d'un blog qui s'appelait à l'époque M comme maman, qui m'ont.
Oui, M comme muse, M comme maman, d'accord.
Oui. M, c'est Manon.
Ah oui.
Ça m'a obligée à prendre vraiment un pas de recul pour observer ma vie. Et c'est. Puis après ça, à le partager, à donner un sens à tout ça. Donc, honorer le quotidien par la créativité. Puis quand j'ai commencé ma certification en coaching de créativité, c'est principalement pour accompagner les artistes qui vivent des enjeux de blocage, de procrastination et tout. Mais hey, on vit tous ça, hein, même si on n'est pas des artistes professionnels. Donc, j'ai pris ces apprentissages-là pour les ramener à nous, et ce que j'appelle les artistes du quotidien, hein, quand on crée notre vie de façon consciente. Par la créativité, ben on devient un artiste du quotidien, puis on reprend notre pouvoir personnel en main. Donc, c'est là où je suis née. Ça part vraiment de ma propre médecine que j'applique dans ma vie à tous les jours, et ça depuis 7 ans. Puis, je suis une étudiante de la vie, donc je continue d'apprendre, de suivre d'autres formations, et c'est là où le coaching en psychologie positive aussi est venu s'intégrer, qui part du fait que on a vraiment du pouvoir sur notre vie pour cultiver le bien-être et le bonheur aussi. Puis assis sur la pleine conscience, où on prend conscience du moment présent, où on ne juge pas, où on accepte ce qui est. Puis de là, dans cet état de bien-être puis d'abandon-là, ben on renaît. Mais ça passe définitivement par le besoin de créer pour laisser des traces, pour intégrer, puis pour laisser aussi le mental se reposer, puis laisser la part intuitive s'exprimer, puis après ça, ben, travailler en synergie entre les deux, là, définitivement.
Bah, merci beaucoup d'avoir partagé. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on commence l'interview?
Non, ça va, je suis
Et
prête.
tu es prête. Bon, ben, on se lance alors. Et je commence avec la première question qui est: quelle est la meilleure erreur que tu aies faite dans ta carrière et quelles leçons en as-tu tirées?
Je pense que, tu sais, quand je disais que j'étais promue par justement ce désir-là, cette soif-là de trouver absolument c'est quoi ma mission de vie, qu'est-ce que je dois faire, il y avait quand même une forme d'urgence là-dedans qui était là. Et ça devient une déformation, veut pas, tu sais, une forme naturelle d'agir. Et c'est comme ça que j'ai construit mon entreprise sans m'en rendre compte, un peu basée sur les peurs de me tromper, les peurs d'être obligée de retourner dans un système où j'étais pas heureuse. Donc, il y avait cette urgence-là de construire. Malgré tout, je veux dire, mon travail est fondé dans, tu sais, prend racine dans le calme, heureusement, dans le bien-être, c'est ce qui m'a porté, mais à un moment donné, ça m'a quand même épuisée de construire ça à partir de ce moteur-là de « j'ai peur », tu sais, de me tromper, de déplaire, de ci, de ça. Puis, c'est vraiment en revenant vers moi, en créant le calme, en lâchant prise sur tout, que je me suis retrouvée à rechoisir et retomber en amour avec cette entreprise-là, avec cette mission de vie-là, littéralement, pour la changer de peau, comme quand on transplante une petite plante, là. Puis maintenant, ben, c'est vraiment ancré dans le calme puis l'amour, tu sais, d'agir à partir de l'amour pour ce que je fais, de l'amour pour ceux avec qui je travaille, puis ça change tout. Donc, c'est la plus belle leçon que j'ai pu... vivre, intégrer.
C'est toujours étonnant parce qu'on sent qu'on est sur la bonne voie, mais on a encore des schémas et des façons de faire qui font qu'on est prisonnier encore. Et ce que tu décris, c'est que tu étais sur ta voie avec la créativité et qu'il y avait encore des peurs et qu'on les voit pas forcément. C'est étonnant.
Oui, puis en même temps, mais je veux dire. Quand, pour moi, là, une entreprise, ça doit rester vivant. On doit rester vivant à l'intérieur de ce projet-là, de jamais s'asseoir sur nos lauriers, mais vraiment être en quête d'avancer et de le partager, de l'enseigner. On le fait d'abord pour soi, puis après ça, on l'enseigne. Tu sais, c'est jamais terminé, puis c'est ce que j'appelle rester vivant, là, dans le fond.
Quelle technique ou outil t'as le plus fait avancer personnellement ou professionnellement?
Je reviens à ce que j'ai partagé tantôt, définitivement. Créer le calme par la méditation. Pour moi, ça passe aussi par la course ou la marche dans la nature et par tenir un journal personnel. Quand j'enseigne à mes muses, tu sais, faut simplifier notre pratique le plus possible pour que ça puisse s'intégrer dans un quotidien qui est chargé et tenir un petit journal près de soi, au bureau, dans notre sac de jour, sur la table de chevet, peu importe, pour être prêt à attraper au vol les parenthèses de temps qui s'offrent à nous et arrêter d'attendre le moment parfait ou le local parfait, la situation de vie parfaite. Non, il faut créer au milieu du chaos. Il faut être capable de créer ce calme-là, ce bien-être-là par la créativité au milieu du chaos. Ça veut dire d'être capable de saisir une idée qui fait surface quand on est assis sur un banc en train de manger un sandwich, puis de s'essuyer sur nos cuisses, puis d'écrire sur notre napkin. Faut être capable de le faire de façon parfaitement imparfaite, parce que ça, c'est parfait.
et quelqu'un t'a enseigné la méditation? Comment tu...
J'ai étudié, oui, le MBSR, le Mindfulness-Based Stress Reduction à Montréal, qui est dans la lignée qui est enseigné par Jon Kabat-Zinn. Je l'ai étudié à Montréal.
D'accord. Mais on peut commencer seul, tout simplement, en se posant et en faisant le calme dans son esprit.
Oui, et puis il y a tellement de ressources, je veux dire, gratuites sur Internet, puis des applications sur cellulaire et compagnie. Mais moi, je dirais, faut seulement faire grandir ce désir-là, puis l'intention de créer le calme d'abord et avant tout. Ça part de là. Fait que même quand on n'est pas encore capable de s'asseoir pour méditer ou on l'oublie, tu sais, qu'on s'en éloigne, de maintenir le cap sur cette intention-là, de la maintenir vivante, c'est déjà un grand pas qui va nous aider à ne pas perdre le fil de ça.
OK, je passe à la troisième question. Quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
Spontanément, je dirais, rester connecté à notre cœur, à notre essence, puis de pas avoir peur d'être pleinement. Ce que je vois souvent en entreprise, que j'ai vécu aussi dans mon ancienne vie, c'est ça. On dirait que les gens ont. Bien souvent, puis moi-même, je m'inclus là-dedans, on peut porter un déguisement, un masque qui fait qu'on va agir en fonction de ce qu'on croit que les autres pensent qu'on devrait agir, mais d'être capable de se reconnecter à notre essence, à notre cœur, d'agir à partir de l'amour et non pas de la peur, permet à tout le monde d'être tellement mieux, d'être plus détendu, d'être vrai, puis on va tellement plus loin, plus vite comme ça. Donc, mais heureusement, je le vois de plus en plus, les gens reviennent à cette forme d'authenticité là, puis on soif de ça, d'enlever le costume, puis de revenir à ça. Puis ça ne veut pas dire que c'est moins sérieux. C'est pas parce qu'on est nu-pieds qu'on est moins sérieux, puis on n'est pas capable de construire de grandes choses, définitivement, là.
J'ai eu l'occasion de travailler, quand je travaillais aux États-Unis, je travaillais avec des Québécois. Et ça, c'était, je trouvais que c'était quelque chose qui était assez bien intégré, où on pouvait rigoler. Ça voulait pas dire qu'on faisait pas notre boulot. Donc, je me rappelle très bien avec les fournisseurs, vraiment plaisanter, ce qui est beaucoup moins bien perçu, j'ai l'impression, en France. Mais bon, les choses évoluent. Quel livre conseillerais-tu pour devenir un meilleur manager? Ah, c'est marrant, je lis la question telle quelle, mais en gros, quel livre, toi, t'as
Oui.
influencé ou touché?
Je vous en nommerai, je vais vous en nommer deux qui, pour moi, je pense que ça peut être d'excellents points de départ, tu sais, pour apprendre à créer le calme là où on est ici et maintenant. D'un, c'est le livre du docteur Robert, je pense c'est Maurer, Maurer. Puis j'ai vérifié, il existe en français. C'est Un petit pas peut changer votre vie. Ça, c'est la philosophie Kaizen qui est appliquée au niveau personnel. Donc, lui, c'est un psychologue qui a ramené la philosophie Kaizen qui est appliquée dans les entreprises comme Toyota pour introduire ça dans notre quotidien. Donc, tu sais, la puissance de se poser de petites questions sans chercher des réponses, vous allez le trouver là-dedans, de faire de petits pas, donc c'est zéro vol, de petites parenthèses de temps, c'est beaucoup plus favorable que d'attendre d'avoir 3 heures devant soi pour prendre soin de soi. Donc, vous allez voir, c'est super bien expliqué, donc c'est un très bon livre. Et le deuxième, c'est un livre qui est écrit par une chercheuse en psychologie positive, Sonia Lyubov.
Lyubomirski.
Oui, c'est ça, Comment être heureux et le rester, qui est un ouvrage excellent aussi pour prendre conscience de notre pouvoir personnel sur là où on peut agir dans notre vie pour être heureux, pour être bien. Puis quand je dis heureux, là, c'est pas être heureux à tout prix, là, c'est cultiver une sérénité au milieu qui est stable, là, qui fait du bien, puis qui nous permet d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'on est, puis dans ce qu'on fait.
C'est marrant parce que c'est en lisant ce livre que j'ai créé juste après Mood Step et un an et un peu plus d'un an après Happy Lab. C'est le livre, en tout cas moi, qui m'a fait découvrir la psychologie positive et qui a été un peu comme une révélation. Ouais. Il commence à dater d'ailleurs ce livre, hein, mais c'est vrai qu'il est très bien écrit, je l'ai trouvé très concret, très pratique.
Oui.
Ça doit être un des seuls livres que j'ai où j'ai osé mettre des annotations de partout. Ce qui pour moi est un sacrilège de mettre des annotations dans un livre, mais là je n'ai pas pu m'empêcher. Et on va finir avec une citation qui t'inspire.
Oui, en fait, c'est un extrait de L'Invitation qui est écrite par l'écrivaine canadienne Orya Mountain Dreamer, qui dit: Je ne m'intéresse pas à la façon dont tu gagnes ta vie. Je veux savoir à quoi tu aspires et si tu oses rêver de réaliser le désir ardent de ton cœur.
Je savais que c'était bien d'interviewer une Canadienne, qu'on aurait des citations venues d'ailleurs. C'est bien. Je mettrai cette citation ainsi que les livres en référence dans la description du podcast sur iTunes et sur le blog de Moodstep. Je voudrais te dire un grand merci d'avoir accepté cette interview. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Je suppose que tu as un site ou les réseaux sociaux. Quelle est la façon la plus facile de te contacter?
Sur mcommuse.com, M comme Commuse, www.pinterest.com. Je suis également sur Facebook, Instagram, Pinterest.
La Donc, totale.
Puis venez parce que, je dirais, pour moi, c'est, ce qui est important, c'est la communauté des muses qui rallie des personnes formidables. Il y a des échanges merveilleux. J'ai un atelier en ligne qui s'appelle Revenir vers soi qui rallie des gens de partout sur la planète et où il y a un groupe privé, entre autres sur Facebook, qui permet des échanges qui sont riches, puissants, puis formidables, qui font grandir. Donc, je vous invite à venir me faire un petit coucou, à venir visiter, puis à devenir une muse.
Ah, et les hommes peuvent être des muses aussi.
Définitivement.
Définitivement. Un grand merci. Je sais que la journée commence pour toi. Nous, elle arrive en fin d'après-midi. Je te souhaite une excellente journée et je tiens encore une fois à te remercier d'avoir participé à ce podcast. Je suis extrêmement heureuse d'avoir reçu une Québécoise.
Merci à toi. Merci pour ton travail. Puis merci d'être qui tu es.
J'espère que cette interview sera la première d'une série d'interviews avec toute la francophonie. Je sais pas, moi, la Suisse, la Belgique, le Congo, le Sénégal. Et j'en passe parce que des francophones sont un peu partout dans le monde et j'aimerais bien recueillir leur vision, leur technique, leur savoir-faire dans tout ce qui touche au management et au savoir-être. Mais pour l'heure, on se retrouve tout simplement la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes, c'est souvent la manière la plus simple de recevoir les podcasts dès leur publication. Vous pouvez également retrouver ce podcast sur SoundCloud ou sur le blog de Moodstep, moodstep.com. Passez une excellente semaine et à très bientôt.